Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative réalisée par les salariés de Radio Campus Amiens. Cette émission est disponible sur le 87.7 FM, sur le DAB+ et sur radiocampusamiens.fr. Aujourd'hui, je vous propose une interview du groupe Dyke Rap. J'ai eu la chance de les rencontrer quelques heures avant leur concert du 8 décembre dernier à la Lune des Pirates. Ils partageaient la soirée avec le groupe Johnny Mafia. Bonsoir, du coup Dyke Rap.
Salut.
Salut.
Alors, quel membre du groupe j'ai devant moi là actuellement ?
Moi c'est Marian, je suis guitariste de Dyke Rap.
Et moi je suis Mimo, chanteur et guitariste.
Très bien, vous êtes quatre en tout dans le groupe,
c'est
il
ça.
Me semble. Il y a aussi un batteur
ouais.
Et Serge qui est un bassiste un peu mystérieux.
Exactement.
On y reviendra juste après.
Pas de soucis. Le batteur s'appelle Léo.
Voilà, Léo, oui aussi c'est bien de le présenter ouais. Léo. Quand j'ai découvert votre univers, j'ai vu un truc ultra référencé, que ce soit dans la musique, il y a plein d'influences différentes, mais aussi dans les visuels, dans l'attitude. Et du coup, j'ai pas envie de vous catégoriser tout bêtement, et j'aimerais que vous vous présentiez, peut-être que vous décriviez justement votre univers aux auditeurs de Radio Campus Amiens.
C'est un peu compliqué, nous, ouais. Nous non plus, on n'arrive pas trop à se mettre dans une case. Enfin, on a pas mal de références, beaucoup dans le garage et dans le punk. Et après
beaucoup dans les 90s pour la musique et aussi un peu la pop culture qu'il pouvait y avoir à cette époque-là, notamment la télé sur MTV, ces choses-là. Mais aussi des références actuelles dans la musique où on se reconnaît carrément sur des groupes américains, australiens.
Comme Doonrats ou Fiddler.
Voilà, ouais. Du coup, c'est un peu on remet au goût du jour les 90s comme on peut, quoi.
C'est ça.
Je sais pas trop.
Ouais.
Il y a de ça, il n'y a pas que ça non plus, mais je sais pas.
C'est un peu tout ça, oui, on va dire.
Ouais,
allez,
ouais.
Voilà.
C'est très bien, c'est très bien. On reviendra un petit peu peut-être sur vos conseils et vos influences musicales. Moi, c'est surtout l'actuel qui m'intéresse, les
ouais.
recommandations actuelles, c'est ça aussi qui m'intéresse. J'ai regardé pas mal d'interviews de vous et vous parliez d'un premier album qui est assez spontané, qui est brut, qui retrace un petit peu votre quotidien, on va dire. Est-ce que vous êtes toujours dans le même état d'esprit sur ce second album qui s'appelle Life is Unfair?
Je pense que les textes c'est un peu une continuité du premier album puisque ça parle toujours de choses qui peuvent arriver à tout le monde dans la vie, que ce soit avec des potes en soirée ou voilà, ouais, c'est assez basique quoi, ça parle de la vie quotidienne et des moments cool comme des moments moins cool.
Et est-ce qu'il y a quand même quelque chose de différent? La réponse est oui,
ouais.
J'imagine. Et qu'est-ce qui est différent? Du coup, j'imagine que l'idée n'était pas de faire exactement la même chose que sur le premier
non.
album. Quelle couleur supplémentaire?
Bah déjà, au niveau de la musique, on a voulu un truc beaucoup plus produit. Le premier, on l'a enregistré, du coup, dans un corps de ferme à Évreux, pas dans un studio vraiment. Et du coup, le son, il en ressort un peu plus, il est moins travaillé, il est plus lo-fi, etc. Là, on voulait vraiment aller en studio, trouver un mix qui nous plaise vraiment beaucoup plus précis et agressif. On veut dire moins. Enfin, c'est pas qu'il est brouillon le premier, mais il est quand même plus brouillon que le deuxième qu'on a voulu faire vraiment. On voulait que ça sonne un peu plus professionnel, quoi. Comme les grands groupes qu'on écoutait, comme on disait dans les années 90, genre un gros son à la Green Day ou des choses comme ça, quoi.
Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous name drop peut-être les professionnels avec qui vous avez travaillé
ouais.
sur ce second album?
Du coup, l'album, on l'a enregistré chez Tonio au Havre, qui est notre ingé son avec lequel on est ce soir et sur toutes nos dates quasiment. Et le mix et le mastering ont été faits par Thierry Minot, qui nous accompagne aussi de temps en temps sur des dates quand Tonio n'est pas dispo, quoi.
Vous parlez pas mal aussi dans vos différentes interviews, entretiens, d'un certain état d'esprit que vous cherchez un peu à cultiver, et vous parlez de Dirty Sanchez, de Jackass ou de South Park. Est-ce que vous pourriez me le décrire un petit peu, cet état d'esprit, au-delà du côté tête brûlée, qu'est-ce
ouais.
qu'il représente pour vous?
Bah, nous déjà, on n'est pas des musiciens issus de cursus de musiciens professionnels, du coup en fait on se prend pas vraiment au sérieux. Et je trouvais que ces refs-là, c'est un peu aussi des gens qui se prenaient pas au sérieux dans ce qu'ils faisaient. Du coup, on s'en inspire un peu dans ce côté-là. On essaie de faire les choses bien, mais de pas non plus se mettre une pression ou de se dire « Oh là là, attention, on a fait une fausse note, là, c'est
on
une catastrophe. »
On se prend pas pour des virtuoses, tout ce
ouais.
qu'on fait. Ce qu'on fait, si on monte sur scène et tout, ce soir ou les autres fois, c'est surtout pour s'amuser,
ouais.
pour faire kiffer les gens et pour faire la fête en fait.
Parce que de toute façon, les groupes qu'on aime bien, en fait, moi je trouve quand on va voir un mec sur scène qui va faire toutes les notes parfaites et tout, il est parfait sur sa guitare, ça va être beaucoup moins fun que de voir juste des gens qui déconnent sur scène et qui foutent le bordel en fait. Et nous, c'est ce qu'on veut retranscrire un peu à travers et notre son et ce qu'on fait sur scène quoi.
Oui, sur le côté créatif, vous avez ce côté un peu jackass. Voilà,
c'est ouais, ça que vous voulez dire. Ça, c'est parce qu'on est aussi comme ça dans la vie de tous les jours. Ouais. On aime bien faire les cons puis rigoler entre potes et c'est un peu. Notre mantra quoi.
Johnny Carroche.
Allez.
Ça tombe, je vais chercher des mousses.
First try. What I'm doing.
Il est parti.
Oui.
Il est parti acheter des mousses et
s'enregistrer. Vous entraînez. Ah non, s'enregistre. Ah, ouais.
Est-ce que je fais.
Ouais.
My 20s in the 20s, living my 20s in the 20s. Everyone is dying, TVs keep playing. My 20s in the 20s, living my 20s in the 20s. Oh, cheese on your meat, eating shit on repeat. Everything is burning, I don't know what I'm doing. Oh, everything is burning, I don't know what I'm doing. Oh, my 20s in the 20s, living my 20s in the 20s. Boys kiss me in pricks, cops are rising their sticks. My 20s in the 20s, living my 20s in the 20s. I want to burn everything before it does it on its own. Everything is burning, I don't know what I'm doing.
On peut aussi parler d'un des membres de votre groupe qui porte une cagoule sur scène. Est-ce que c'est un apport du second album déjà? Cette cagoule, elle était déjà présente,
elle était déjà présente sur le premier.
Ouais.
Sauf que sur le premier, elle était seulement noire. Maintenant, elle change de couleur.
Voilà, voilà.
C'était justement ma question, c'est que représente cette cagoule? Donc, elle représente Serge, mais finalement, qui est Serge? Qu'est-ce qu'il incarne?
Serge, c'est un peu une entité qui n'existe. Enfin, ça, c'est à la fois concret et non plus pas concret, puisque c'est un peu une idéologie, enfin, je sais pas comment dire, mais genre...
Bah Serge, déjà, nous, il était pas sur les parts du premier album, on l'a rencontré en route depuis, et il est très mystérieux même avec nous. Ce soir, on sait pas trop s'il va être là, d'ailleurs, c'est un peu un doute qui plane au-dessus de la soirée. Mais
genre un bassiste spare, on sait jamais.
C'est ça, ouais, on est obligé d'apprendre les parts à d'autres personnes si jamais il peut pas être là, ça a déjà eu lieu. Mais sinon ça représente, je sais pas, ce sera lui de le dire, mais comme il est pas là, on pourrait pas trop s'avancer à sa place.
C'est ça.
On peut aussi revenir encore une fois sur cet état d'esprit. Est-ce qu'il y a une forme de nostalgie, de mélancolie par rapport à un moment passé? Comment ça se passe, cette insouciance finalement que vous essayez de continuer à cultiver?
Bah, on essaye de rester des ados dans notre tête, quoi. On n'assume pas trop de grandir et de devenir des adultes avec des responsabilités. Et du coup, même si dans la vie de tous les jours, on doit quand même être pas mal sérieux pour pas mal de trucs qui sont chiants, la musique, ça nous permet de revenir un peu les ados qu'on était... plus jeune, quoi.
Et là où je vous trouve assez paradoxaux parfois dans ce que vous proposez, c'est que vous cultivez encore une fois cette insouciance, mais vous parlez aussi d'un monde qui part en vrille.
Mmh.
Et,
ouais.
Dans le post d'Insta de la release de votre,
yes,
de votre album. Et justement, je voulais vous demander, vous, selon vous, voilà, qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui part en vrille finalement sur ces choses que voilà, on ne vous entend pas forcément s'exprimer?
C'est un peu le contexte général, les guerres qu'il y a partout, les... la politique, tout. Enfin, ouais, au final, quand on regarde tout ça, ça te dégoûte complètement. Et en fait, nous, plutôt que, je sais pas, de... On préfère en fait dire bah, qu'on est foutu et vas-y, on fait la fête.
Ouais, c'est ça, ouais. On a l'impression qu'il n'y a jamais plus rien de bien, de vraiment de positif qui va se passer et que tout est déjà à moitié joué, que c'était trop tard et que c'est chiant. Du coup, bah, autant.
On préfère du coup bah, faire la fête et tout oublier pendant que tout brûle, quoi.
D'où aussi la musique et l'importance pour vous de faire de l'art, j'imagine quelle est là votre recette pour cultiver un peu cette influence.
C'est ça, exactement. Pas pour autant non plus qu'on oublie tout ce qui se fait dans le monde, qu'on n'est pas sensible à ça, c'est juste qu'en fait, on a besoin aussi de décompresser et de faire décompresser
ouais,
les
parce
gens.
Que, puisqu'on en parle aussi, c'est que ça nous préoccupe, mais c'est paradoxal, mais c'est ce qui se passe juste dans nos têtes. On est insouciant quand on est ensemble, on s'amuse, mais comme tout le monde... Les news de tous les jours nous touchent forcément, quoi.
Évidemment, vous n'êtes pas des monstres plein de sang-froid. C'est ça que j'apprécie aussi beaucoup avec votre musique, c'est que c'est un exutoire finalement et on le ressent dans l'album déjà, ce qui est plutôt positif. Et j'imagine aussi sur scène, justement, on peut peut-être en venir, rentrer dans les détails. Quel gros son vous avez ramené ce soir? Sur quoi vous jouez? Quels sont toi tes amplis de guitare, ta guitare? Est-ce que tu peux m'expliquer tout ça? Je sais que vous êtes des fans de Fuzz aussi, par exemple.
Ouais.
Est-ce qu'on peut parler un peu de technique de son?
Bah ouais, carrément, moi je joue sur un Fender Bassman, du coup une vieille tête, et je rejoue sur la guitare du premier album, donc la Vox en forme de goutte d'eau là. J'avais changé pour le deuxième, j'ai enregistré tout sur une Jazzmaster, mais j'ai réessayé en répète l'autre jour la Vox et je me suis dit qu'au final elle sonne très bien. Et je sais que quelques personnes me l'avaient réclamé en mode « Ah, c'était la guitare des premiers clips, etc. » et on la voyait plus au concert, et du coup bah là elle est de retour exceptionnellement ce soir.
Et qu'est-ce qui te plaît dans ce son en particulier? Pourquoi tu l'as choisi?
Bah, franchement, déjà parce qu'elle coûtait pas très cher, c'est un bon critère. Et puis, je l'avais juste acheté pour son look, je l'ai même pas essayé, je l'ai acheté en ligne à un mec, je savais même pas comment ça allait sonner, et ça sonne super bien, je suis content. Un peu comme une Strat, mais pas vraiment non plus, mais ça s'en rapproche un peu, genre un peu passe-partout, quoi. Et sinon, en fuzz, bah, j'ai une grosse pédale de fuzz et d'autres petits effets, mais rien de non plus d'hyper compliqué, quoi, on va dire. J'ai une pédale énervée et l'autre, ça fait le son pas énervé, et puis j'oscille entre les deux, quoi.
Et on retrouve encore une fois ce côté très brut dans votre son, très,
ouais,
très nature,
voilà, ouais.
Finalement. En termes de son, est-ce qu'il y a des références actuelles qui vous parlent, des gens qui vous ont inspiré sur le choix du matos, de la façon de jouer, etc.?
Bah ouais, je pense que... Enfin moi j'ai une pédale de fuzz, c'est la Fuzz War de Death by Audio et il y a un peu tous les groupes qu'on aime qui l'ont. Donc en fait, du coup, je me suis pas fait chier, j'ai acheté celle-ci et puis ça correspond parfaitement à ce qu'on veut faire. Donc ouais, là-dessus, c'est une bonne ref, quoi.
Très bien. On parlait aussi un petit peu finalement de tout ce qui est... le monde qui part en vrille. Il y a des choses aussi beaucoup plus terre-à-terre que j'ai découvert un peu en se renseignant sur vous. Je sais par exemple que vous travaillez avec certains membres de Mindkind. Je sais que ces personnes sont engagées en ce moment dans le mouvement Smack Forever. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Moi personnellement, Amiens, c'est quelque chose dont j'ai pas encore entendu parler. Mais
okay.
Est-ce que vous pourriez m'en parler éventuellement? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a touché et qui vous... sur lequel vous êtes engagé finalement?
Ouais, forcément ça nous touche puisque nous, notre Smack au 106, dès les débuts des groupes qu'on a eu, on a toujours été accompagnés, on a pu avoir pouvoir faire des répètes là-bas, stocker du matos,
faire des résidences et tout, ça, pour se professionnaliser et... Du coup le Smack Forever, c'est en mode ils vont avoir de moins en moins de sous, je crois, pour pouvoir faire tout ça, accompagner justement les nouveaux groupes. Et du coup bah, c'est quelque part les prochains qui vont arriver, ils vont peut-être pas avoir la chance qu'on a eu nous d'être accompagnés, et je pense que vraiment on serait pas du tout où on en est sans leur aide, quoi. Du coup bah, forcément on se sent concerné.
Justement c'est super intéressant ce que vous me dites, parce que ça permet d'aborder justement la scène rouennaise. Moi, encore une fois, là, je vous pose les questions en tant que quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose à cette scène, sur cette scène rouennaise. Je regardais une vidéo, je crois que c'était le 106, il parlait de l'école de Rouen ou quelque chose, l'école rouennaise à laquelle vous appartiendrez, etc. Concrètement, actuellement, quelle est l'effervescence là-bas? Est-ce que vous pourriez me parler de quelques acteurs, finalement, qui vous ont accompagné dans vos débuts à Rouen?
Bah, nous, on joue beaucoup aux trois pièces, c'est notre bar de référence.
C'est ça.
Et c'est là où on a fait tous nos premiers concerts à Rouen, parce qu'à la base, nous, on vient pas de Rouen, du coup, on connaissait pas non plus comment ça se passait, etc. Du coup, on est arrivé à Rouen, on s'est fait accompagner par le 106, et après, on est tout de suite allé aux trois pièces, on nous a dit, c'est là-bas qu'il faut un peu aller quand on fait de la musique. Et c'est là où on a rencontré plein de gens qui sont nos potes maintenant et qui jouent aussi dans des groupes comme les gars de Cerveau, les gars de Mannequins, etc. Et du coup, c'est un peu là aussi tout se fait, en dehors du 106 et des cadres, on va dire, officiels.
Quelle est la dynamique ? Est-ce qu'on a tous les genres ? Nous, par exemple, actuellement, à Amiens, on a une grosse scène hip-hop. Est-ce que c'est le cas pour vous aussi ? Est-ce qu'il y a une grosse scène rock aussi, punk, même en de l'underground ? Est-ce que vous pourriez aller un peu plus loin ?
Ouais, je sais qu'il y a une scène hip-hop, je sais qu'il y a plein d'autres scènes, il y a des scènes électro. Mm. Après, nous, là où on traîne nos trois pièces, c'est essentiellement rock et un peu aussi de... Bah, en vrai, Violette Indigo, c'est du hip-hop. Enfin,
ouais.
En vrai, c'est un peu éclectique, mais c'est surtout sur le rock.
Il y a plus de rock qu'autre chose.
Ouais, c'est ça.
Ce qui est très chouette, finalement, aussi, de se dire qu'on peut continuer à faire du rock en 2023, carrément. Quand on a entre 20 et 30 ans, si vous n'avez pas encore dépassé la trentaine. <C'est ça. rire>
Non, c'est bon.
C'est super. Bon, pas encore. Bientôt, l'année prochaine.
Justement, dans le clip de Good Days Again, on vous voit signer en maison de disque. Je crois que c'est le gros label ou quelque chose comme ça.
C'est une grosse maison de disque.
Voilà, grosse maison de disque. Est-ce que c'était fait pour le moment ou pas ? Et est-ce que c'est quelque chose qui vous tente, finalement ?
Ça n'a pas été fait. Non. Ouais, déjà. Ça, c'est, on peut le dire.
Après, signer sur une grosse maison de disques, ça me fait pas rêver. Nous, ce qui nous ferait rêver plutôt, c'est de trouver un tourneur. Donc, s'il y a un tourneur qui nous écoute, on est chaud.
On est chaud de la tournée. Ça nous fait pas peur.
C'est ça. On va bien faire pas mal de.
Mais non, un gros label, ça voudrait souvent dire qu'on n'est plus complètement libre de ce qu'on fait, enfin de ce qu'on entend. Mm. De toute façon, je pense pas qu'une grosse maison de disques va nous proposer quelque chose.
Avec le genre qu'on fait, ouais, c'est pas trop.
Mais après, il faut voir le chèque aussi, on sait pas. Hein.
Il faut voir l'avance, c'est pas la dilapider du coup.
Petite villa pour la mama.
C'est ça.
Justement aussi, vous parliez du fait de vouloir vivre de la musique. Est-ce que c'est fait aujourd'hui ? Est-ce que vous vivez de votre musique ou vous taffez toujours à côté ?
Et non.
C'est pour ça qu'on veut un tourneur. On aimerait bien pouvoir tourner assez pour choper l'intermittence.
On a bien compris comment ça marchait. Il ne reste plus qu'un tourneur d'ETR.
C'est ça. Pour l'instant, ça reste toujours un truc passion, quoi.
C'est ça.
Très bien. Passion quand même plus du coup, parce que là j'imagine que vous êtes en tournée actuellement.
Non, même pas. On a juste quelques dates là pour la fin.
Ça se prépare, mais ce sera pour l'année prochaine, on va dire.
C'est ça.
Qui sont Kids Are Lo-Fi, qui sont la SEP Records, qui sont Nashow Time Records. Voilà, comment ils collaborent avec vous finalement tous ces records, tous ces labels.
Kids Are Lo-Fi, c'est des potes à nous. Dirigé d'une main de fer par Lucie Gibert.
C'est ça.
Et.
Qui sera là ce soir.
C'est ça. C'est des potes, quoi. En fait, ça a été lancé d'abord par le groupe We Hate You Please Die à Rouen. Ils ont lancé leur propre label. Et maintenant, ça continue d'exister par le biais d'autres personnes. Et toujours aussi un peu We Hate You Please Die.
C'est ça. Et puis, du coup, il y a le CEP qui est un label parisien. Du coup, ça fait Rouen-Paris. Lui, on l'a rencontré quand on jouait dans notre ancien projet The Big Beans. C'était genre en 2017, un truc comme ça.
Ouais, un truc comme ça.
Et pareil, c'est devenu un pote parce qu'à force de se voir en concert, etc. Et Time Room Records, donc c'est le troisième label qui est belge.
C'est ça, il bosse pas mal avec le CEP Records. Donc en fait, lui, il est plus sur la Belgique.
Et ces trois labels-là, ils s'occupent de la production. Du coup, des vinyles.
C'est ça.
Et du coup, voilà, c'est vraiment plus l'aspect production des disques en mode vinyle, quoi. Et des cassettes pour Kids Are Lo-Fi.
Ok, donc sur la production, mais et aussi la distribution de.
Ouais,
de
distribution
vinyles.
Digitale aussi.
Et cassettes aussi.
Et physique, ouais. Enfin, il y a Modular aussi.
Distribution,
Voilà.
Très bien. Du coup, là, vous me parlez, vous êtes sur une petite tournée. Du coup, comment ça se passe ? Combien de dates finalement ?
Là, on a une date à Amiens.
Ok.
Après, on rentre à Rouen demain. Et le week-end prochain, on joue à Nantes et Bordeaux.
Ok.
Du coup, là, c'est les dates de fin d'année. Après, c'est les fêtes. On profite. L'esprit de Noël, voilà. On le sent.
Good days again.
quel retour vous avez eu finalement sur cette deuxième création, on va dire?
Bah, là, on a un peu hâte de voir, de rencontrer notre public parce qu'on l'a pas encore vu depuis qu'on a sorti l'album. C'est notre première date.
Concert, mais date sinon, qui est quasiment sold out hein, d'ailleurs, il me semble.
Oh,
15 places près.
Je n'avais pas l'information. Et sinon, du coup, moi j'ai eu des retours via les gens juste de ma ville, de Rouen, du coup, juste quand je sortais. Mmh. Des fois je sortais, je voyais quelqu'un que je connaissais pas forcément qui me dit « Ah, oh, c'est trop bien ce que vous faites, j'ai écouté et tout. » Et je trouve que c'est un retour aussi qui est beaucoup plus à petite échelle, mais qui fait tout autant plaisir, quoi.
Super. Donc c'est la première fois que vous découvrez La Lune des Pirates.
Exactement. Ouais.
Qu'est-ce que vous avez pensé de la SMAC, de la salle, quand vous êtes arrivé? Quelles ont été vos premières impressions?
Bah, c'est cool parce que c'est pas très grand, mais c'est pas non plus trop petit.
Non, et c'est en fait, la jauge parfaite.
C'est à échelle humaine, quoi. Et donc je pense que ça peut être pas mal.
Moi, c'est la jauge parfaite, hein,
franchement. C'est ça.
Pour ce
ça
qu'on
peut
fait,
être
nous.
Le bordel et
c'est
trop
ça.
Bien et pas trop non plus trop grand. Enfin. C'est quand même à bonne distance du
ouais public. Non c'est ça, oui, puis il y a les petites estrades pour ceux qui sont fatigués ou quoi, c'est nickel hein.
Et puis on s'en prend plein les oreilles aussi quand on
ouais.
est dans la fosse, je vais pas vous mentir, ça c'est chouette aussi pour les groupes.
Bah là on a fait les balances et ça avait l'air de sonner archi comme on aime bien, ça pique un peu mais au moins on s'en souvient.
Très bien. Et concrètement là vous êtes à les 2h, 2h30 du live, comment vous vous sentez avant de monter sur scène, comment vous appréhendez les débuts du concert?
Bon perso moi j'ai pas spécialement d'appréhension, j'ai un peu hâte parce que ça fait longtemps qu'on a fait une date du coup, et puis voilà, j'ai un peu faim aussi, mais j'ai un peu hâte d'aller au restaurant. Tout va bien en gros.
Bon, on arrive là quasiment à la fin de cette interview, moi j'aimerais peut-être que vous me conseillez chacun un groupe qui vous inspire, peut-être qui est actuel, pas du passé, éventuellement dans cet esprit Jackass, Dirty Sanchez, si vous avez des références aussi actuelles,
okay.
N'hésitez pas à m'en donner, j'irai évidemment et nos auditeurs et auditrices iront checker ça.
Ok.
Bah il y a Doonrats, non?
Bah oui, grave.
C'est un des groupes qu'on kiffe vraiment beaucoup.
Groupe australien où sur leur clip tu vois tout de suite qu'ils sont aussi inspirés de Jackass et de ces choses là.
C'est ça, c'est des petits loustiques qui font des bêtises
des
comme
petits loustiques de 40 ans, toujours voilà. Adolescents aussi.
C'est ça. Il y a Fiddler c'est très bien.
Fiddler, hein, mon groupe préféré qu'on a eu enfin la chance de voir à Paris l'autre
ça.
Jour, c'était incroyable. Un pogo de 1h15, c'était génial.
Et en termes de peut-être de contenu audiovisuel de type MTV à l'époque, est-ce que vous regardez des choses actuelles ou pas?
Les anges.
Ah oui, évidemment. Les anges de la télé-réalité.
Très bien, bah on va s'arrêter du coup sur ce conseil. Plus sérieusement, quand j'ai organisé l'interview avec Jimmy de La Lune des Pirates, il m'a parlé aussi de ce courant australien. Donc moi, américain, british, je vois très bien. Australien, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pourriez me donner quelques éléments de compréhension?
Bah, y a une grosse scène australienne avec beaucoup de groupes dans le genre punk garage.
Mm-hmm.
Et y a vraiment pas mal de groupes là-bas, donc on s'inspire aussi pas mal de ça. Fin...
Ouais, on n'a pas souvent la chance de les voir en France en plus, donc quand ils passent, faut aller les voir quoi.
C'est ça.
Mais ouais, il y a Doonrats, il y a Skeggs, il y a The Chat, ils viennent de là-bas.
C'est ça, Piste Idiot, enfin il y a plein de trucs.
Ouais, il y en a vraiment plein à fouiller. Une fois que t'es tombé dedans, tu les trouves
tous.
Il y a
vraiment une grosse scène, on dirait pas comme ça peut-être de l'extérieur, mais...
Et c'est une scène qu'en France, on va dire, il n'y a pas beaucoup de groupes de ce style-là. Du coup, nous, c'est aussi pour ça qu'on se reconnaît pas mal aussi, c'est ce qu'il fait là-bas.
Et là-bas, ça marche pas mal, alors qu'en France, c'est beaucoup un truc de niche, quoi. Et là-bas, c'est assez répandu.
Genre Doonrats, là-bas, ils jouent devant des milliers de personnes, alors qu'ils viennent en France, ils jouent devant 50 personnes. Quoi.
Ouais.
Du coup, c'est ouf.
Presque une culture ou un marché différent, on va dire, pour parler en termes
qu'est-ce qui fait ça, mais c'est comme ça, quoi.
Ok, très bien. Qu'est-ce que je dois vous souhaiter du coup pour la suite? C'est quoi vos prochains projets là qui arrivent après ce second album?
De devenir professionnel de la musique.
Ouais, voilà, trouver un tourneur si c'est possible, ce serait pas mal ça.
Ouais.
On crache pas dessus.
Bon, bah on va tout faire à Campus Amiens alors pour vous trouver un tourneur. Merci.
Allez.
En tout cas de nous avoir accordé.
Bah, merci à toi.
Merci à toi, ça fait plaisir.
Au revoir.
Salut.
Au revoir.
Like this one.
acting like this with you tonight, tonight. I don't know why I'm acting like this with you tonight, tonight. I don't know why I'm acting like this with you tonight, tonight.
Acting like this.
I don't want to taste it for you.
Ça enregistre déjà.
Oui.